Et la revue de presse internationale avec vous, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Un hasard du calendrier judiciaire australien replonge le pape François au plus profond des scandales de pédophilie dans l'Église.
Jamais l'abomination, selon les propres mots du pape, n'avait éclaboussé un dignitaire si haut placé dans la hiérarchie vaticane. Car cette fois, nous dit le Corriere della Sera, c'est le numéro 3, le trésorier du Vatican, le cardinal australien, George Pell, qui est condamné, reconnu coupable d'abus sexuels sur un enfant de cœur. C'était à la cathédrale de Melbourne, dans les années 90. Jusqu'à tout récemment, George Pell, c'était l'un des plus proches conseillers du pape François. Les fins connaisseurs des coulisses vaticanes, comme le Corriere della Sera donc, avaient bien noté, mi-décembre, qu'il avait été exclu du C9, le premier cercle. C'était bien à cause de cette condamnation qui avait été prononcée en Australie le 11 décembre, mais à l'époque, on ne pouvait pas en parler.
Some international news outlets have reported for months that Australia's most senior Catholic cleric was convicted of child sex offences.
C'est ABC News, le média australien qui avait fait éclater le scandale il y a quelques années, qui nous explique pourquoi cette condamnation n'a pas été révélée dès le 11 décembre. En fait, George Pell était poursuivi dans deux procès distincts pour pédophilie. Le premier avait donc été jugé mi-décembre et le prélat avait été condamné. Mais la justice australienne avait interdit de communiquer sur cette condamnation tant que la deuxième affaire ne serait pas jugée elle aussi. Elle s'est achevée hier avec un non-lieu et dès lors la première condamnation pouvait être rendue publique. Depuis, donc, elle secoue toute l'Église catholique. Dans le Guardian, la spécialiste des questions religieuses, Harriet Sherwood, n'y va pas de main morte pour décrire une Église imperméable au changement, malgré les grands discours, le plus jamais ça, les remords exprimés par le pape il y a quelques jours encore. D'autres horreurs sont à venir, prévient Sherwood, qui nous explique comment la condamnation de George Pell, à retardement, met à sac toute l'opération de reconquête de l'opinion internationale lancée la semaine dernière par François. Les abominations pédophile, cette fois, concerne son plus proche entourage. Et le fait que Pell ait été maintenu dans ses fonctions de numéro 3 du Vatican, même après la condamnation de décembre, semble inexcusable. L'hypocrisie, écrit cette fois Tom Wright dans le quotidien The Age de Melbourne, l'hypocrisie atteint son comble quand on sait que le cardinal Pell, à la fin des années 90, au moment même où il commettait les crimes pour lesquels il vient d'être condamné, le cardinal Pell, donc, se faisait connaître des Australiens en portant le premier une vraie réponse publique, une promesse déjà de nettoyer les écuries d'Augias face au scandale de pédophilie qui frappait déjà son clergé.
Et puis un autre puissant qui tombe, c'est le désormais ex-ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif.
Ouais, lui, c'était devenu au fil des années dernières le visage de la diplomatie iranienne dans sa phase de réchauffement avec l'Occident. Il avait incarné côté iranien les négociations de l'accord sur le programme nucléaire, la levée des sanctions internationales en 2015. Mais hier, lira-t-on sur le site d'info Moyen-Oriental Al-Monitor, Javad Zarif a annoncé sur son compte Instagram qu'il démissionne. Annonce pour le moins inattendue et soudaine, intervenue, impossible de ne pas le noter, le jour même hier où le président syrien Bachar el-Assad effectuait sa première visite à Téhéran depuis le début de la guerre en Syrie. Les photos officielles de la rencontre de l'accolade entre Assad et l'ayatollah Khamenei s'étalent en une du Tehran Times ce matin et jamais Javad Zarif n'y est présent. Cette absence pour Al-Monitor illustre bien l'éviction de celui qui a porté la diplomatie iranienne pendant des années et qui voyait ces derniers mois son influence décliner. Impossible, écrit The Middle East Eye, de connaître pour le moment les vraies raisons de cette disgrâce dans le système politique iranien particulièrement opaque et complexe. Mais sur le plan international, Zarif est clairement victime du volte-face de la politique américaine en Iran. Avec Donald Trump qui a balayé l'accord de 2015, qui a rétabli les sanctions contre l'Iran, Javad Zarif, comme principal artisan de cet accord, a été critiqué quand les Iraniens se sont rendus compte que l'embellie économique ne viendrait pas. Quoi qu'il en soit, qu'on lise ce matin Haaretz en Israël ou bien le Washington Post, on comprend vite que l'éviction de Zarif est une mauvaise nouvelle pour l'Iran et pour le monde, le signe d'une perte d'influence des modérés qu'il incarnait au profit des plus conservateurs. Car Zarif, écrit Jason Redzayan dans le Washington Post, avait beau être hypocrite, condescendant, exceller dans le double langage, il incarnait un canal de communication efficace entre l'Iran et l'Amérique. Lui qui avait fait ses études dans les universités américaines et une bonne partie de sa carrière diplomatique à l'ONU à New York. Ce qui est préoccupant avec son départ, conclut donc Redzayan, c'est le silence qui va s'installer entre eux et nous.
Et puis enfin Camille, vous avez regardé la télévision publique russe et vous nous annoncez donc l'imminence de l'apocalypse nucléaire.
Oui, alors on va essayer de garder la tête froide, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on regarde, quand on a regardé comme des millions de spectateurs russes, l'émission du très célèbre et très poutinien présentateur Dmitri Kisilyov sur la première chaîne publique russe. Par zèle, journalistique, dira-t-on. Il s'est amusé, Kisseliov, à pointer sur une carte des États-Unis tous les centres de décision américains qui pourraient être frappés par les futurs missiles hypersoniques Zircon présentés jeudi dernier par Vladimir Poutine.
Прикинем. Pentagone.
Voilà, une petite cible apparaît sur le Pentagone, puis sur la résidence présidentielle de Camp David, avant que ne soient énumérés d'autres lieux de pouvoir censés abriter les centres du renseignement, du commandement de l'arsenal atomique américain. Et voilà donc une mise en scène des menaces exprimées à demi-mot par Poutine, qui fait beaucoup réagir les médias. Hein, aux États-Unis, mais aussi en Russie, même le sérieux quotidien Gazeta relaie les calculs de Kisseliov et de son équipe, selon qui le Kremlin peut pulvériser le Pentagone, par exemple, en 1 minute et 20 secondes. Gazeta pointe tout de même les nombreuses inexactitudes de ces calculs de Kisseliov. Plusieurs des sites militaires américains présentés, par exemple, comme des cibles de choix, sont en fait des bases qui ont été fermées pour certaines depuis plus de 20 ans. Les renseignements russes, comme les méthodes du journaliste Kisseliov, s'amuse le site d'opposition Medusa, semble donc dater de l'époque de la guerre froide. Plus largement, tellement de critiques ont été exprimées sur les réseaux sociaux russes contre ces inexactitudes que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dû se désolidariser du journaliste de la première chaîne. Le message tout de même est bien passé. La possibilité d'une nouvelle crise des missiles comme celle de Cuba en 1962 s'est bel et bien installée dans l'esprit des téléspectateurs russes et les Américains, eux, sont prévenus au cas où ils voudraient déployer leurs propres fusées chez leurs partenaires européens, Roumanie, Pologne ou Géorgie.
Merci beaucoup Camille. Peut-être qu'on va faire réagir notre invité qui vient d'arriver en studio, Gilles Kepel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, professeur à Sciences Po, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale. On va parler ensemble dans quelques instants de la chute de l'État islamique et de ses conséquences, et notamment du retour de ses combattants. Mais réaction sur la revue de presse internationale à l'instant, et peut-être en particulier sur la démission du ministre des Affaires étrangères iranien.
Oui, Mohammad Javad Zarif, quelqu'un que j'ai bien connu depuis longtemps, puisqu'on était ensemble souvent au forum de Davos avant que j'en ai été chassé pour mauvais esprit, et on avait organisé plusieurs panels avant même qu'il soit à l'ONU. C'était quelqu'un qui avait été, comme vous l'avez dit, éduqué aux États-Unis, qui parfait un anglais parfait. Il avait été envoyé à l'époque du Shah, parce que sa famille était une bonne famille impériale, mais sa mère était avec Khomeini secrètement, ce qui l'a permis de se recycler ensuite. Et il a été certainement le lien principal entre la République islamique et les États-Unis. Il incarnait en Iran une tendance assez différente de celle des gardiens de la Révolution, qui est aujourd'hui, à mon avis, dominante. Je l'ai expliqué dans mon livre « Sortir du chaos », comment, à mon sens, aujourd'hui, on va voir l'Iran se transformer en un régime de plus en plus hypernationaliste, avec peut-être une mise à l'écart des principaux idéologues, en particulier dans l'opposition extrême à Israël, de manière à sauver les élites révolutionnaires, mais avec un fonctionnement de plus en plus militarisé, avec comme grande figure qui apparaît, parce que la chute de Javad Zarif laisse la place pour quelqu'un d'autre, qui est le général Qassem Soleimani, qui est aujourd'hui le grand héros militaire de l'Iran, et qui commence à faire de l'ombre à la hiérarchie religieuse. Ouais. Donc je crois que intérieur à ce débat, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on voit là des éléments d'évolution du système iranien qui aujourd'hui est dans une situation très difficile parce que les sanctions américaines ont considérablement appauvri le pays.
Peut-être une forme de militarisation du pouvoir iranien.